On va déguster. Sur France Inter.
Dominique Hutin qui a rempli nos verres.
Oui, il n'y a plus qu'à compléter l'ordonnance de Charles. Alors, pas avec un hameçon, mais un tire-bouchon pour partir à l'abordage de l'étal du poissonnier. Je vous propose qu'on aille jeter l'ancre dans le pourtour méditerranéen, donc en Grèce, sur l'île de Tinos.
Oui.
Ça s'appelle le domaine de Kalatas. Et la cuvée, c'est Sainte-Obédience 2016.
Oui, Sainte-Obédience 2016.
Oui, c'est du français parce que le vigneron est français. Et oui, cette couleur qui danse très, très, très ambrée.
Moi, ça je reste lis Sainte-Obéissance.
Ah oui, ben c'est bien, c'est pour voir si vous suivez.
Oui.
Bravo. Alors justement, l'autre jour j'ai bousillé du japonais, aujourd'hui on va flinguer du grec. Les cépages sont locaux, accrochez-vous, c'est Aspropotamici, 80%, et c'est complété par du Rosaki qui est un raisin de table.
C'est bien si j'ai un mal de crâne, c'est ça?
Oui, voilà, l'aspro, parfait. Bien joué Elvira. Alors ce sont des vignes centenaires qui ne sont même pas greffées, n'ont jamais été greffées. On est sur un terroir de sable qui résiste au phylloséra, donc on peut se permettre ce genre de coquetterie. Évidemment, alors bon, c'est un vin qui a été bio-certifié, c'est contrôlé, il n'y a pas d'intrants œnologiques. Voilà, c'est vraiment un style très 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 direct. Alors évidemment, si je vous parle de vin blanc qui s'accorde bien avec le poisson, ça ne va pas être un grand pas pour l'humanité et la culture gastronomique. Alors on peut peut-être si quand même dire pourquoi, simplement parce que le poisson contient des protéines qui s'accommodent assez mal des tanins du vin rouge. Voilà la raison pour laquelle tout ça est plus fluide. Mais je suis prêt à tenter un autre pari avec un vin rouge. Celui-ci nous vient de Toscane. Il est rouge, hein. C'est fait avec du Cabernet Sauvignon, le même cépage qu'à Bordeaux. C'est le domaine Fuorimondo, en Toscane. Et on est juste là pour situer un peu les choses sur la côte face à l'île d'Elbe. Voilà. C'est aussi produit en culture biodynamique, là encore certifié, là encore contrôlé. La question qui se pose, c'est pourquoi ce vin? Certainement pour une raison assez simple, parce qu'il est emblématique. D'abord, le vigneron, il est belge, celui-ci. Il s'appelle Olivier-Pierre Morandini et il milite pour la transparence dans le vin en général, et le bio en particulier, avec une association qui s'appelle TOA. Vous êtes prête, Elvira? On va parler anglais.
Écoute.
Ça va piquer un peu.
TOA.
TOA, c'est Transparency for Organic Wine Association.
Right.
C'est bien dit? Voilà. Alors, il ne faut pas s'y tromper qu'un vigneron bio milite pour la transparence dans le vin et le vin bio spécialement. Ça ne signifie pas qu'il réclame plus de radicalité. Il réclame simplement plus de transparence. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une petite coquetterie dans l'univers du vin, c'est que le vin n'est pas classé comme un produit alimentaire. Et donc, à ce titre-là, ça le dispense des étiquettes que vous voyez sur tous les produits alimentaires que vous achetez au jour le jour, le quotidien, les matières grasses, les ingrédients, etc., etc. Là, on a vraiment une exception culturelle européenne avec le vin. Donc, pas d'affichage. La deuxième chose, c'est que le professeur Sicolella, qui fait partie de la même association TOA, a mis à jour, avec des analyses, a mis à jour des traces de molécules ayant des impacts CMR. Alors le C de CMR, c'est cancérigène.
Ah.
Voyez. Et en même temps, des possibilités de perturbateurs endocriniens. Donc, on a quand même...
Endocriniens peut-être.
Oui, merci de rectifier au fur et à mesure. Et c'est plus joli que ça, parce qu'en plus, il y a une possibilité d'effet cocktail. Et puis enfin, le bio a multiplié par 4 le marché. Donc évidemment, ça a ouvert des appétits assez formidables chez les lobbies agroalimentaires qui sont d'autant plus puissants qu'ils profitent du financement par la PAC. Donc il y a une vraie force d'impact chez ces gens-là. Et enfin, et c'est d'autant plus facile pour eux que les portes sont grandes ouvertes parce qu'il y a un cahier des charges bio européen qui est pour le moins très light, avec une possibilité d'avoir des intrants, des pratiques, pendant que les vignerons bio...
Une passoire, quoi.
Oui, c'est un peu une passoire, pendant que les vignerons bio français, dans leur grande majorité, mènent un travail extrêmement exigeant. Donc le risque est grand, au final, une fois qu'on fait la somme de toutes ces choses-là, de dépouiller le bio pour l'amener vers une espèce de bio au rabais, qui ne dirait pas de quoi il est fait, qui ne dirait pas vraiment son nom, et qui rendrait le vrai bio vertueux seulement accessible à ceux qui en ont les moyens. Voilà. Donc militons pour que les vins conventionnels disent enfin ce qu'ils ont dans le coffre. Et ce travail de ce vigneron et de cette association TOA, ça rentre tout à fait en résonance avec un autre travail mené, ça nous ramène au poisson, c'est le travail mené par l'association Bloom, là encore auprès du Parlement européen. Alors Bloom, peut-être que vous connaissez
ONG,
Charles,
hein.
Voilà.
Oui, on les connaît bien, on les a rencontrés pas mal de fois.
Et ils sont connus notamment pour leur travail autour de la pêche électrique, puisqu'ils viennent d'obtenir que la pêche électrique soit interdite à l'horizon 2021.
La pêche électrique, en un mot?
C'est des chaluts sur lesquels on a rajouté des électrodes pour les rendre encore plus performants, avec une volonté de consommer moins de carburant. Cependant, avec une logique qui est plus pays du Nord, de dire on va faire des gros bateaux hyper efficaces, où on va mettre un gros bateau, une grosse usine en mer, une grosse usine à terre, et puis entre-temps, un port un peu mort, Alors que nous, on a envie d'un modèle où il y a plein de petits pêcheurs qui attrapent tous un petit peu de poisson, un port vivant,
qu'apparemment des quotas de pêche. La pêche électrique, il s'agit bien d'électrocuter la faune marine.
Oui, c'est des petits courants. Alors, je pense
on
pas
envoie
que
des
c'est...
champs électriques pour déloger spécialement les poissons plats, la sole. Et évidemment, ça a conduit à la désertification des fonds marins et, comme l'a dit Charles, aussi des ports qui vont avec. Donc ça, c'est tout à fait catastrophique. On a des bateaux qui ont baissé pavillon. Et alors, aujourd'hui, Bloom mène un autre combat, lui aussi placé sous les auspices de la transparence des labels. Et on va entendre Frédéric Lemana, qui est directeur scientifique de Bloom.
Le problème des labels de pêche durable, c'est qu'il y a un label qui est majoritaire, qui écrase la concurrence, qui s'appelle le label MSC. Donc vous pouvez le voir dans la grande distribution, quand vous prenez l'avion, quand vous allez au restaurant, quand vous allez faire vos courses. Ce label est vraiment partout, c'est un petit poisson bleu. Et le problème, c'est que c'est une entreprise privée, en fait, qui a créé la définition de la pêche durable pour elle. Et le problème, c'est que cette définition de la pêche durable ne correspond pas du tout à l'image que le citoyen s'en fait. Et donc, si on devait énumérer les pires méthodes de pêche au niveau mondial, celles qui détruisent les habitats marins, qui capturent d'innombrables espèces qui vont être rejetées mortes à la mer, qui ciblent des juvéniles qui n'ont pas eu le temps de se reproduire, ou des espèces qui sont à la base de la chaîne alimentaire, comme le krill par exemple, une toute petite crevette qui est à la base de la chaîne alimentaire dans l'Antarctique, on a toutes ces pêcheries-là, destructrices, ultra intensives, qui sont certifiées par le label MSC. Et donc on a un accaparement d'un terme que tout le monde veut. Tout le monde veut du durable, de l'équitable, du responsable, mais on certifie les pires méthodes de pêche actuelles.
Frédéric Lemana au micro de Dominique, directeur scientifique de Bloom. On peut dire qu'il n'est pas tendre avec ce label MSC. C'est vrai qu'on le voit un peu partout, sur beaucoup d'emballages. Marine Stewardship Council, absolument.
C'est difficile l'anglais. Hein.
Qu'est-ce qu'il faut en penser? Vous êtes aussi...
Je suis d'accord avec eux. En fait, c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle l'équivalent agriculture. Ce serait le fameux bio-industriel. C'est-à-dire, oui, on est rassuré. Puis en fait, derrière, il se passe des choses qui sont pas du tout en accord avec ce qu'on pense acheter.
Mais il cautionne vraiment des techniques de pêche intensives?
Des techniques de pêche intensives, des conditions de travail des marins qui sont pas du tout ok, avec des gens qui sont payés au forfait, avec des temps en mer hyper longs, et surtout des impacts sur les fonds énormes, avec en plus des bateaux qui peuvent être certifiés pour une pêcherie, mais qui sur une autre vont faire n'importe quoi.
Oui.
Mais en fait, il faut juste aller voir son poissonnier, lui demander, et quand c'est pas clair et qu'on a arrêté saumon, cabillaud, crevette, eh ben, manger ces espèces qui sont pas connues et pas se dire, ok, j'ai acheté un truc labellisé, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Saumon, cabillaud, crevettes, on arrête.
Énormément importé.
Ouais.
Derrière des méthodes de production, ça vient de loin. Et surtout, au lieu de manger du saumon nourri avec du chinchard qui est pêché normalement juste pour faire de la farine à saumon, ce qui est quand même assez hallucinant, on pourrait juste manger des chinchards. Nous, on le met à la poubelle à farine, on va dire. Et c'est l'Hollandais qui les pêche. Et pendant ce temps, les Japonais, ils le cherchent comme un mets de luxe. Est-ce qu'on pourrait pas juste manger du chinchard d'abord, au lieu d'aller prendre le saumon sur l'étal? Alors oui, le saumon, c'est facile, c'est ce qu'on connaît. Donc si vous arrêtez le saumon, si vous arrêtez le cabillaud, et si vous arrêtez les grosses gambas, vous avez déjà du bon boulot.
On va revenir sur le choix des poissons, Dominique.
Oui, simplement pour compléter ce menu, vous allez sur notre site France Inter, on va déguster. Vous avez trouvé le lien vers cette association TOA pour la transparence autour des vins. Vous avez trouvé aussi une petite bibliothèque idéale avec 5 livres, pas moins, qui traitent des vins bio, naturels, etc. Et enfin, un dossier spécial vin naturel sur le site Ataboula qui exceptionnellement met la consultation en accès libre pour les auditeurs de France Inter. On va déguster.